Vous écoutez On lit pour vous.
Des cours pour améliorer les compétences parentales. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 8 mai 2024 dans Le Devoir. Dans la classe de Barbara et Jonathan, une douzaine de parents échangent sur les techniques qu'ils peuvent mettre en place pour encourager leur enfant dans leur réussite scolaire. Ils parlent de leurs expériences personnelles, partagent les trucs qu'ils ont développés, de leur implication et des défis qu'ils éprouvent. Puis, dans un jeu de rôle, ils font la lecture à leur enfant, interprétée par d'autres parents, en expérimentant différentes méthodes pour rendre l'exercice plus intéressant et renforcer les liens. Les parents, qui jouaient le rôle de l'enfant, racontent ensuite au groupe comment ils se sont sentis valorisés, fiers, aimés, pendant cet exercice. Imaginez l'impact sur un enfant. Et cet enfant-là, eh bien, c'est le vôtre, résume le co-animateur Jonathan Dunn, suscitant beaucoup d'émotions dans la salle. « Tu vas me faire pleurer », lance une maman. « Je vais essayer de le faire plus souvent. Je réalise que ce sont de beaux moments », assure une autre. Ses parents qui suivent le cours, ces années incroyables offertes par le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, ont tous un point commun. Le directeur de la protection de la jeunesse, DPJ, est impliqué dans leur vie. Certains ont la garde de leurs enfants, ou de certains d'entre eux. D'autres n'ont que des droits de visite qui se déroulent ici, dans ce même grand local apaisant et lumineux, aux murs décorés d'étoiles et de montgolfières. Certains ont été référés par leur intervenant ou sur une recommandation d'un juge pour améliorer leurs compétences parentales. Mais ils sont tous ici sur une base volontaire, même si d'accepter, comme parents, qu'on a des choses à améliorer n'est pas toujours facile. L'ego d'une maman. Au début, j'étais un peu comme, tu sais, l'ego d'une maman. Je me disais, je n'ai pas besoin de ces ateliers-là, franchement. En quoi ça va m'aider? Raconte Megan, une mère de 35 ans qui vient de terminer l'ensemble du programme et qui témoigne sous un nom d'emprunt en raison de la loi sur la protection de la jeunesse qui interdit d'identifier des enfants ou des parents suivis par la DPJ. Mais au fur et à mesure que les ateliers avançaient, je me suis rendu compte que c'était bon pour moi, enchaîne Megan. Les échanges avec les autres mamans, ça nous amène souvent sur des nouvelles perspectives d'éducation. Des nouvelles façons d'intervenir qui sont plus positives que ce que moi, on m'a enseigné dans ma jeunesse. Puis, quand j'ai mis ça en pratique auprès de mes enfants, j'ai vu que, oui, ça avait une répercussion positive. Zoé, 42 ans, a carrément refusé de participer aux ateliers la première fois qu'on lui en a fait la suggestion. « Je ne le sentais pas », résume-t-elle. Revenant elle aussi sur la question de l'ego et sur différentes contraintes logistiques. Mais surtout, confie-t-elle, elle avait besoin de temps pour digérer le fait que la DPJ faisait désormais partie de sa vie. Quand la DPJ rentre chez toi pour une première fois, t'as l'impression de recevoir un coup de poing sur la gueule, raconte-t-elle. Ton monde s'effondre, renchérit Megan. Au début, je les voyais comme une grosse bête noire, poursuit Zoé. Jusqu'à ce que je vois que les décisions qui ont été prises l'étaient autant pour le bien des enfants que mon bien à moi. Aujourd'hui, je suis plus forte et j'ai récupéré ma fille à la maison. On a eu confiance en nous, ça a renforcé notre estime, ajoute Sarah, une nouvelle arrivante qui a été victime de violences conjugales de la part de son ex-conjoint qui l'a parrainée au pays il y a quelques années. Pour elle, les ateliers étaient aussi une façon d'être en contact avec d'autres parents. Je voulais briser l'isolement parce que je n'étais pas intégré à la société. Avant, je voyageais, je sortais, je travaillais, mais quand je suis arrivée au Canada, c'est comme si j'étais devenue une autre personne, raconte-t-elle avec émotion, avant d'échanger ses coordonnées avec d'autres parents pour garder contact après les cours. « Je suis triste que ça se termine. On apprend tellement », poursuit-elle. « Pas forcément par les animatrices, mais des échanges avec les parents. À chaque fois, les parents nous donnent des idées de comment se comporter dans différentes situations. Sortir de son rôle d'expert. C'est exactement le but de Barbara, éducatrice spécialisée à la DPJ qui anime ces années incroyables, CAI, depuis une dizaine d'années. Comme intervenant, on a tendance à leur dire quoi faire. Mais l'approche CAI, c'est exactement le contraire, explique-t-elle. C'est une approche collaborative. On part du principe que les parents sont les experts de leurs enfants. Il faut essayer le plus possible de sortir de notre rôle d'expert et de leur redonner la parole. Ils les ont, les réponses. Ils sont bons. Avec cette approche positive, elle leur redonne confiance en leurs propres capacités et elle voit les changements au fil des semaines. « C'est mon bonbon de la semaine », dit-elle avec un grand sourire. « Je les sens engagés, intéressés. Je les entends parler de leur enfant avec amour, avec intérêt. Ils veulent le meilleur pour leur enfant et puis on a du fun. » Le programme de ces années incroyables qui vient de Seattle aux États-Unis est offert par le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal depuis plus de 20 ans. Au total, entre 1 500 et 2 000 parents en ont bénéficié. Plusieurs parents ont gagné en confiance dans leur capacité parentale. Ils se sentent plus confiants d'encadrer leurs enfants. Plusieurs parents ont vu aussi leurs relations s'améliorer plus positivement avec leurs enfants. Et d'ailleurs, plusieurs parents rapportent aussi que le comportement de l'enfant s'est amélioré suite au passage dans l'atelier de ces années incroyables, explique Marie Daly, chef de service à l'équipe de réadaptation dans la communauté du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Son collègue Philippe Lavoie, coordonnateur pour la programmation Ces années incroyables, sort des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. La majorité des parents qui complètent le programme sur les 15 semaines voient leur dossier en protection de la jeunesse fermé dans l'année suivante. C'était « Des cours pour améliorer les compétences parentales », un texte de Jessica Nadeau, paru le 8 mai 2024 dans Le Devoir.
Les Grands Lacs, terre et mer autochtones. Un texte de Marine Ernoux, paru le 25 octobre 2022 dans l'Express.ca de Toronto. Les Grands Lacs revêtent une importance culturelle unique pour les Premières Nations qui vivent dans la région. Aujourd'hui, les jeunes générations essaient de retisser des liens parfois perdus avec cette énorme réserve d'eau douce. Les Grands Lacs sont un cadeau extrêmement précieux fait à notre peuple. C'est littéralement l'histoire de nos origines, confie Dawn Martin Hill, anthropologue Haudenosaunee et directrice du programme de recherche autochtone sur l'eau Onéganos de l'Université McMaster en Ontario. Historiquement, les Hurons-Wendat et Haudenosaunee vivent autour des lacs Érié et Ontario. Plus au nord, le groupe des Premières Nations Anishinaabe, comme les Ojibwe, les Chippewa, les Odawa ou les Mississauga, est établi à proximité des lacs Huron et Supérieur. Quelle que soit leur tradition, ces peuples autochtones partagent avec les Grands Lacs un lien culturel, profond et ancien. Les premières traces de peuplement dans la région remontent à 13 000 ans, révèle Gary Warwick, archéologue et professeur agrégé à l'Université Wilfrid Laurier en Ontario. Offrande aux esprits. C'est un gros morceau de notre histoire, insiste Dawn Martin Hill. Les Grands Lacs occupent une place spéciale dans nos croyances et notre spiritualité, poursuit Darlene Johnston, membre de la Première Nation des Chippewa de Nawash, située sur les abords du lac Huron, cofondatrice de l'Alliance de recherche des Grands Lacs pour l'étude des arts et cultures autochtones. Les Anishinaabe s'appellent eux-mêmes « le peuple de l'eau profonde », renchérit Michael Witgen, historien Ojibwe, professeur à l'Université de Columbia de New York et membre de la bande Red Cliff du lac Supérieur. Avant les épidémies du 16e siècle, responsable de la mort des deux tiers de la population de la région, plus de 130 000 Autochtones bénéficiaient d'eau potable, de nourriture et de moyens de subsistance grâce au Grand Lac. Les Anishinabés, nomades, établissaient des campements de pêche saisonniers sur leurs rives. Avant de monter à bord de leur canoë, nos ancêtres faisaient des offrandes de tabac aux esprits du lac pour assurer la sécurité de leur voyage et avoir de bonnes prises, explique Darlene Johnston. Il s'agissait notamment d'honorer l'esprit de Michipeshu, un monstre aquatique qui se cachait dans les profondeurs du lac supérieur. Ce grand lynx d'eau, aux pattes palmées, aux cornes de dragon et au corps recouvert d'écailles, pouvait provoquer des tempêtes catastrophiques. Le Michipeshu, symbole de résilience culturelle. On faisait preuve d'un grand respect, car on ne voulait surtout pas réveiller sa fureur et voir les canoës se retourner à cause de vagues et de tourbillons, indique Darlene Johnston. La créature vit encore à travers les traditions orales, les représentations artistiques modernes. C'est un symbole de résilience culturelle. Preuve de son importance. Michipeshu fait partie des pictogrammes peints à l'ocre rouge sur le rocher Agawa dans le parc provincial du lac supérieur. Ces dessins, vieux de 4 siècles, représentent des canoës ainsi que des animaux réels ou mythologiques. Ils témoignent des batailles marquantes et des croyances chères aux Ojibwés. Le long des rives du lac supérieur et à la baie Georgienne, les Anishinabés transforment souvent les falaises rocheuses qui se jettent dans l'eau en œuvres d'art, avec des peintures rupestres pour honorer les esprits, fait remarquer Gary Warwick. De leur côté, les peuples Haudenosaunee et Huron-Wendat, agriculteurs semi-sédentaires, cultivaient de larges champs de courges, de maïs et de haricots grimpants. Les lacs nous ont permis d'avoir des terres fertiles et de la nourriture en abondance, d'assurer le développement de villages de près de 3000 personnes dès le 15e siècle, souligne Louis Le Sage, directeur au bureau du Nihon-Wensio de la nation Huron-Wendat. Selon le biologiste de formation, on dénombre aujourd'hui 900 sites archéologiques Huron-Wendat autour des Grands Lacs. Personne ne se réjouit à l'idée d'avoir des liens avec de l'eau sale. Mais, au fil des siècles, le lien profond qui lie les peuples autochtones au Grand Lac s'est érodé. L'arrivée des colons et la mise en place des pensionnats autochtones ont eu des conséquences désastreuses sur notre capacité à entretenir des liens avec nos lacs, déplore Don Martin Hill. L'universitaire évoque également les conséquences néfastes de l'industrialisation massive. On parle de 100 ans de rejet toxique. Personne ne se réjouit à l'idée d'avoir des liens avec de l'eau sale, avec des endroits endommagés et contaminés. Les jeunes générations essaient tant bien que mal de retisser les liens perdus. Ils sont exaspérés et se mobilisent pour nettoyer ce qui peut encore l'être. En tant qu'Autochtone, je trouve incompréhensible que cette eau faite pour nous soit devenue une décharge, se désole Don Martin Hill. L'anthropologue cartographie actuellement la région du lac Érié avec l'aide de jeunes Haudenosaunee. Le but du projet est d'archiver les traditions orales, d'identifier les sites archéologiques, de documenter la faune et la flore et de surveiller la ressource en eau. Avec leurs enseignants, les élèves vont en forêt, partent en kayak, rencontrent des anciens qui leur transmettent des savoirs traditionnels, une manière pour eux de se réapproprier leur culture et leur histoire. Il ne faut pas oublier que les lacs étaient là avant nous, qu'ils nous autorisent à être sur leur territoire. On leur doit beaucoup de respect, conclut Don Martin Hill. Message de paix le long des Grands Lacs. selon l'histoire Haudenosaunis de la création, lorsque les fils jumeaux de la Terre ont créé les humains, la planète était recouverte d'une eau impropre à la consommation humaine. La femme du ciel a alors glissé ses doigts le long de la Terre pour former les grands lacs et nous donner de l'eau pure, raconte Dawn Martin Hill. Légèrement perturbée à ce moment-là, elle a aussi créé les chutes d'eau et les rapides, rendant nos voyages en canoë plus difficiles et dangereux. Les grands lacs ont par ailleurs joué un rôle crucial dans la naissance de la Confédération Haudenosaunis. Le message de paix, à l'origine de sa constitution, a été porté par un jeune garçon qui voyageait sur les grands lacs à bord d'un canoë de pierre blanche. C'est ce qu'on appelle le voyage pacificateur, rappelle Dawn Martin Hill. L'eau revêt également une place centrale dans l'histoire Anishinaabe de la création. Le créateur, Gitchi Manitou, décide d'inonder le monde pour en faire renaître nouveau. Seul, un petit groupe d'animaux échappe au déluge à bord d'un canot. Pour que les plantes, les arbres et l'herbe puissent repousser, l'un d'entre eux doit ramener à la surface une poignée de terre. Le huard, le canard, la loutre et le wison tentent leur chance sans succès. Puis vient le tour du rat musqué. Après 3 jours sous l'eau, il réapparaît mourant, mais souriant, avec de la terre dans la patte. Le huard la prend et la met sur le dos de la tortue. C'est ainsi qu'un nouveau monde prend forme autour des grands lacs. On dit que la terre est une femme et que l'eau est son élément vital. Elle coule en elle, la nourrit, la purifie, précise Darlene Johnston. C'était « Les grands lacs, terre et mer autochtones », un texte de Marine Ernoux, paru le 25 octobre 2022 dans l'Express.ca de Toronto.
Dans la poche, numéro 141, une sélection de 8 titres d'Alexandra Mignot et José-Anne Paradis, paru le 5 février 2024, dans la revue Les Libraires. À chaque édition de la revue Les Libraires, nous vous proposons une sélection de livres qui se glissent facilement dans votre poche. Petit prix et petit format, certes, mais de grandes découvertes et de belles plumes. 1. La doublure, Mélissa D'Acosta, le livre de poche, 700 pages, $14.95. Ce thriller psychologique de l'autrice, reconnue pour ses « feel-good books », prend ici le chemin du romantisme noir. En nous immergeant dans les dessous du monde de l'art, D'Acosta nous entraîne aux côtés d'Evie, jeune fille de 23 ans, aussi sensible que naïve, à la recherche d'un emploi. Elle rencontrera un riche homme d'affaires et acceptera de devenir la doublure d'une artiste peintre pour qui elle devra faire des apparitions publiques, donner des entrevues. Elle se verra alors plongée dans un monde mystérieux et de plus en plus ténébreux, mais nimbé d'une atmosphère artistique oscillant entre le glamour et l'érotisme. Relations toxiques, mensonges, faux-semblants, dépendance. Evie s'enfoncera dans les méandres de cette superposition des identités et d'une aventure aux lèvres de laquelle le lecteur sera suspendu. 2. La banalité d'un tir, Mali Navia, Nomade, 232 pages, $15.95. Après des années passées au Canada, mais sans jamais s'y être vraiment senti chez lui, comme ballotté dans un entre-deux, Al retourne dans son pays natal, la Colombie, et disparaît, sans doute victime d'une disparition forcée, ce qui signifie qu'il a probablement été tué. En se remémorant son enfance et sa vie familiale, sa fille, Anna, essaie de faire la paix avec son passé, de panser ses blessures et de comprendre ce qui est arrivé à son père. S'inspirant de son histoire, Mali Navia signe un premier roman sensible, beau et émouvant, sur la quête identitaire, ainsi que sur la solitude, le deuil, les origines et les douleurs de l'absence et de l'exil, dont le tiraillement entre deux cultures, deux mondes. 3. La dépendance, Rachel Kosk, traduction Blandine Longre, folio, 208 pages, $17.25. Lire Rachel Kosk, c'est vivre une expérience de lecture intense qui nous pousse dans nos retranchements. L'impact est ainsi grand sur le lecteur en raison de la profondeur avec laquelle cette autrice sonde la psychologie de ses personnages, avec nuance, sans mettre de côté la noirceur qui assombrit parfois les pensées ou la sauvagerie des désirs qui se pointent. Dans La dépendance, elle explore les questions existentielles qui relient l'individu à l'art. Elle tente de cerner comment se constitue l'identité, où se situe l'individualité et ce qu'est la possession. Tout dans ce roman s'articule autour de la complexe interaction que la protagoniste entretient avec un artiste reconnu, maintenant sans le sou, qu'elle a invité à loger dans une dépendance voisine de sa demeure. Mais voilà, l'homme qu'elle admire tant arrive, et à ses côtés, une jeune femme qui déstabilise l'hôtesse. Tension et réflexion. 4. Le mage du Kremlin, Giuliano da Empoli, folio, 288 pages, $17.25. Récompensé en 2022 du Grand Prix du roman de l'Académie française, ainsi que du prix Balzac, ce premier roman nous plonge dans les coulisses du pouvoir russe contemporain. Plusieurs légendes et rumeurs courent sur Vadim Baranov, surnommé le mage du Kremlin, ex-conseiller politique du tsar, qui a œuvré dans l'ombre du pouvoir avant de démissionner. Comment démêler le faux du vrai de la vie de cet énigmatique personnage? Le narrateur trouvera peut-être des réponses quand il fera la rencontre de Baranov, qui lui racontera son parcours atypique, dont son ascension politique dans les hautes sphères du Kremlin. Même s'il s'agit d'une fiction, le politologue Giuliano da Empoli s'est inspiré de l'histoire de Vladislav Surkov, qui a joué un rôle dans l'arrivée au pouvoir de Poutine. C'est fascinant, éclairant et brûlant d'actualité. 5. Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme? Kristen Godsey, traduction Charlotte Nordman et Laura Reim, Luxe, 256 pages, $16.95. Le postulat de cette chercheuse américaine repose sur le fait que le socialisme, lorsque mis en œuvre adéquatement, favorisait l'indépendance économique des femmes, leur offrant de meilleures conditions de travail et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et familiale que le système capitaliste. Ce dernier transforme notre sexualité en marchandise et utilise nos craintes et notre manque de confiance pour nous vendre des produits et services dont nous n'avons pas besoin. Le libre marché n'a pas à s'appliquer au corps des femmes. Incidemment, un mode de vie socialiste, emploi assuré à tout citoyen, protection sociale et services publics de qualité, assure une vie sexuelle plus épanouie pour les femmes. Destiné aux néophytes et curieux du sujet, cet essai qui résulte de 20 ans de recherche aborde la théorie socialiste féministe européenne et les expériences du socialisme d'État au XXe siècle. Que peut-on apprendre du passé pour améliorer notre présent? Le point de vue, étayé de faits et de statistiques, est fascinant. 6. Les racistes n'ont jamais vu la mer, Rodney Saint-Éloi et Yara El Gadban, Mémoire d'encrier, 344 pages, $19.95. Comment mieux comprendre ce que signifie prendre pays qu'avec le partage d'expériences en toute sensibilité d'individus qui l'ont vécu? Dans cet ouvrage, on assiste à un dialogue entre deux personnes qui ont vécu le déracinement et qui nous livrent leurs réflexions, doutes, peurs et joies. Sans jamais pointer du doigt quiconque, et seulement en expliquant leur vécu, le tout dans une poésie à faire frémir, Rodney Saint-Éloi et Yara El Gadbon ouvrent une fenêtre sur tout le courage, la capacité d'émerveillement et la résilience que nécessite l'installation dans un nouveau chez-soi. Pour en finir avec le racisme et pour découvrir l'autre, dans son unicité et au-delà de toute étiquette, cet ouvrage est essentiel. 7. Vivre vite, Brigitte Giraud, j'ai lu, 188 pages, $14.50. Dans ce livre couronné du prix Goncourt en 2022, l'écrivaine Brigitte Giraud essaie de comprendre, 20 ans plus tard, ce qui a mené à la mort de son mari Claude, décédé dans un accident de moto. En élaborant un inventaire de tous les détails de ce qui a précédé cet événement tragique, à coup de scie, elle replonge dans ses souvenirs en tentant de voir comment le drame aurait pu être évité, comment le destin aurait pu être déjoué. Elle choisit ce moment-là pour ce retour dans le passé parce qu'elle vient de vendre la maison qu'elle avait jadis achetée avec Claude, mais qu'il n'a jamais habitée. Parce que la maison est au cœur de ce qui a provoqué l'accident. Même si cette quête ne changera évidemment pas l'inéluctable, cet exercice lui permet de morceler l'incompréhensible. 8. Chasseur au harpon. Marcousi Patsauk, traduction Marc-Antoine Mailleux et Valérie Enitiouk. Boréal, 128 pages, $14.95. Ce classique de la littérature inuite a été écrit il y a un peu plus de 50 ans. Considéré comme le premier roman en Inuktitut jamais publié, cette histoire qui se déroule au cœur de la toundra et qui présente 4 points de vue nous plonge au sein d'une communauté inuite. Si on y découvre, sous une écriture cinématographique, une nature impitoyable, on rencontre également des hommes et des femmes qui cohabitent, une histoire de transmission et même un ours qui devient le symbole du labeur et du combat perpétuel des hommes dans cet environnement arctique. C'était Dans la poche, numéro 141, une sélection de 8 titres d'Alexandra Mignot et Joséanne Paradis, paru le 5 février 2024 dans la revue Les Libraires.